d'après les sources de la société civile dans la zone, le M23 est actuellement positionné à partir de Bougoussa jusque dans les collines de Tchanzu et Runyoni, alors que les FARDC se trouvent à Tchengerero et Bunagana. Nos sources confirment qu'une psychose s'observe toujours dans la zone malgré ce retrait. La population qui s'est réfugiée vers Rutshuru Centre et d'autres en Ouganda ne veulent pas rentrer car elles ne sont pas rassurées par ce retrait du M23 qui n'est pas le premier, disent nos sources. Seuls quelques habitants courageux tentent d'arriver au village pour prendre les nécessaires, notamment les récoltes, et retournent encore dans leur milieu de déplacement. Cependant, il faut rappeler que le contrôle des collines de Tchanzu et Runyoni reste stratégique dans la mesure où il facilite non seulement le contrôle des frontières entre le Rwanda, l'Ouganda et la RDC dans sa partie Rutshuru, mais aussi il donne accès au territoire des Masisi à partir de l'axe Kalengera-Tongo, ce qui explique le maintien à tout prix de cette région par le M23 et même le CNDP auparavant.
Est-ce que les informations selon lesquelles le M23 ne viserait pas à conquérir les territoires en République démocratique du Congo et les gérer sont crédibles ou pas?
Oui, c'est ce que dit leur communiqué du 10 avril 2022 dans lequel le M23 annonce sa décision de se retirer une fois de plus sur les positions défensives d'avril, d'avant le 6 avril, pour permettre, selon le communiqué, la prise en charge de ses préoccupations à travers un dialogue franc et fructueux avec le gouvernement. Dans le même communiqué, le M23 exprime son intention de remettre au Comité international de la Croix-Rouge tous les éléments de l'armée nationale capturés sur la ligne de front. Le M23 a souligné n'avoir jamais eu, selon ses propres termes, l'intention de faire des conquêtes des espaces pour les administrer. La seule motivation, c'est le règlement pacifique de la crise d'après lui.
Sifa Maguru, l'appellation M23 n'est pas nouvelle en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut dire que le M23 d'aujourd'hui a des liens avec le M23 d'il y a 10 ans? Y a-t-il un lien ou pas?
Oui, Dona Madimba, pour la petite histoire, lorsque le M23 est revenu s'installer dans les parcs de Virunga en janvier 2017, c'était d'abord un petit groupe avec plus d'officiers que de combattants sous le commandement de Makenga. Certaines sources parlent de moins de 100 personnes, tous venues de l'Ouganda. Un groupe différent du M24 Ouganda qui avait fui vers le Rwanda. On se rappellera que l'armée gouvernementale avait mené par moments des attaques sur leur position, mais ces derniers ont résisté et ont continué à conserver ces positions. Ensuite, Makenga s'est mise à recruter dans les Rutshuru et dans les Masisi et plusieurs jeunes ont rejoint ce mouvement dans le parc de Virunga selon nos sources. Le mouvement s'est donc renforcé en armement et en munitions sur le territoire congolais. Mais par rapport aux revendications, on peut dire que ce mouvement n'a pas changé de position. Il revendique toujours l'application de l'accord cadre de Nairobi, le retour au pays des ex-rebelles du M23 et leur intégration dans les institutions. Notez qu'à l'époque, le gouvernement congolais avait écarté certains leaders du M23 qui n'étaient pas éligibles et qui étaient impliqués dans les violations des droits de l'homme et qui devraient répondre devant la justice. C'est par exemple Makenga lui-même ainsi que plusieurs officiers qui se trouvent au Rwanda. Voilà la situation d'Ona Madimba.
Merci beaucoup Sifa Maguru et bonne soirée chez vous.
Merci à vous autant.
Merci Dona Madimba et Sifa Maguru pour tous ces détails sur cette résurgence du mouvement M23. Julien Paluku, vous êtes ministre de l'Industrie, ancien gouverneur du Nord Kivu. Actuellement, vous vous trouvez d'ailleurs au Nord Kivu où vous y êtes en délégation avec à la tête le premier ministre Sama Lukonde. C'est par rapport à la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu.
Oui, nous sommes effectivement au Nord Kivu avec son excellence monsieur le premier ministre pour une évaluation de la situation sécuritaire, la situation humanitaire, mais également l'évaluation de l'état au Nord Kivu et à Ituri.
Parlons du M23, un calme relatif s'observe depuis hier dimanche dans les territoires de Rutshuru, notamment dans la zone de Djomba où se sont déroulés des violents combats entre les FARDC et les M23. Vous connaissez très bien ce mouvement rebelle, vous avez été gouverneur du Nord Kivu pendant très longtemps. Ces rebelles du M23 ont fait plusieurs incursions dans cette province que vous avez gérée. Qu'est-ce qui justifierait, selon vous, cette résurgence de ce mouvement rebelle aujourd'hui, alors qu'on sait que ce groupe était censé être désarmé selon l'accord signé entre le gouvernement et ce mouvement à Nairobi?
Oui, merci madame. Moi, je pense qu'il faut replacer la population dans le contexte réel. Le 6 novembre 2013, moi-même avec beaucoup de autorités militaires, nous arrivons à Tchanzu pour signer la capitulation du M23. Il avait traversé les frontières congolaises jusqu'aux frontières voisines. Et depuis lors, je dois affirmer que le M23 n'est plus revenu parce qu'il était déchiré totalement par les forces armées de la République, appuyées à l'époque par les éléments de la casque bleue, notamment la brigade tanzanienne, qui avait son artillerie, qui avait démantelé les trois antennes, comme on le disait. Maintenant, aujourd'hui qu'ils reviennent, moi je veux parler de deux éléments du contexte. Le premier élément du contexte actuel, c'est que nous étions en phase, nous, gouvernement congolais, avec le gouvernement ougandais, pour commencer les travaux de route Bunagana-Rutshuru-Goma, les travaux de route Kasindi, Beni et Butembo, pour essayer un peu d'élargir nos activités économiques entre nous et l'Ouganda. Et c'est à ce moment-là que l'entreprise qui était commise à pouvoir réaliser les travaux était déployée du côté de Bunagana, que le M23 commence la guerre. Pour ta première interrogation. Deuxième interrogation, c'était pendant que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, est à Nairobi pour signer l'adhésion de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est, que effectivement on voit la puissance des feux augmenter pour devoir déloger les éléments des forces armées sur les collines que vous avez citées, notamment Tchanzu et Runyoni. Donc pour moi, deux éléments là doivent aider les analystes à comprendre effectivement que ce qui soit la guerre à la RDC et qui s'appelle M23 sont à même d'être désignés comme des ennemis de la République. Parce que si on doit faire la route entre Bunagana, Rutshuru et Goma pour identifier les activités économiques comme indicateur de développement, si on doit adhérer à la CEAC, si on doit désengorger Jomba, qui est le grand bastion des gorilles des montagnes, pour susciter le tourisme, et que des gens viennent y commencer la guerre, ça montre effectivement que des gens qui se sont toujours prévalus être les amis du Congo, revendiquer le développement du Congo, à mon avis, ça doit être des ennemis de la République et traités comme tels. Donc je crois que l'adhésion de notre pays à la communauté de l'Afrique de l'Est devra permettre à la RDC, à travers son président, d'être en face de tous les présidents membres de cette communauté pour qu'on se parle réellement en face et qu'on puisse trouver une solution définitive à cette crise. Tous les États de la région ne peuvent pas accepter ce genre de blagues. On peut accepter qu'au Rwanda, les gens viennent, eh bien, ils prennent une localité et puis ils disent, bon, monsieur le président rwandais, nous vous demandons de faire une négociation avec nous pour que nous vous laissions le temps de faire X, Y. On ne peut pas le faire non plus pour l'Ouganda. Donc, je crois que ça doit être la même logique pour la République démocratique du Congo, pour que l'adhésion au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est soit un signal fort de ne plus tolérer ce genre de bêtises, ce genre de blagues qui endeuillent continuellement notre population. Aujourd'hui à Rutshuru, à Jomba, à Bunagana, à Bugusa, à Tshegeseo, les gens fuient à cause des gens qui se réclament être des Congolais et défendre la force des Congolais. Donc voilà plus ou moins l'interrogation que j'ai voulu mettre sur la table de discussion, les éléments du contexte, sans être le porte-parole du gouvernement, mais en tant que notable de la province du Nord.
Selon certaines indiscrétions, cette question aurait été évoquée lors de la signature de l'adhésion de la RDC à l'EAC le week-end passé. Est-ce que vous nous confirmez cela en tant que membre du gouvernement? Est-ce que vous avez quelques informations sur ça?
Non, moi je pense que l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté d'Afrique de l'Est n'avait pas pour objectif d'aller trouver des solutions ou de parler du problème du M23. Ça peut avoir été évoqué dans les couloirs, mais ça ne peut pas faire l'objet, sincèrement, d'un point à l'ordre du jour. Donc je ne sais pas si vous le confirmez, étant donné que moi-même je n'étais pas membre de la délégation, mais je crois, et cela nous a été dit par le président de la République, que il s'est déplacé pour Nairobi en vue de signer l'adhésion de notre pays au sein de la communauté économique de l'Afrique de l'Est. Donc, la question du M23, comme je vous l'ai dit, a été subsidiaire parce que les attaques ont eu lieu en Asie pour chercher à forcer la main du président de la République se trouvant à Nairobi à accéder à un certain nombre de revendications. Et ce sont des méthodes de tout le temps. Ceux qui ne les connaissent pas peuvent croire qu'ils soient de bonne foi. Mais nous, qu'ils les connaissons très bien, et ça, j'ai lancé une alerte à l'ensemble du peuple congolais, que ces méthodes qu'ils ont toujours utilisées pour dire, bon voilà, nous vous laissons un espace, on signe un communiqué, alors que naturellement, s'il s'agit réellement de M23, ils n'ont pas la capacité de conquérir un espace, de l'occuper, de le contrôler.
Le M23 n'a pas la capacité d'occuper certaines positions et de contrôler certaines localités de la RDC si il n'a pas un appui extérieur. Plusieurs observateurs parlent de l'appui du Rwanda. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on a même suivi le communiqué du porte-parole de l'armée au Nord Kivu, lorsqu'on avait capturé de présumés rebelles M23, les avait présentés comme étant des militaires rwandais.
Bon, moi, je pense comme il y a un mécanisme régional de vérification qui est installé dans la région ici, et avec l'adhésion de cette communauté de l'Est, moi, je crois que les chefs d'État devront se parler sincèrement et franchement. Même si en politique, il n'y a pas d'amis, ce sont les intérêts qui comptent, mais moi, je crois qu'on devra se parler sincèrement, parce que lorsque nous avons été à Tchadjoua en 2013, après Tchanzu, c'est la forêt. Mais comment quelqu'un peut, de la forêt, avoir une puissance de feu qui vient déloger les éléments des forces armées? Donc, il faudrait que les enquêteurs puissent savoir si la forêt est devenue aussi un lieu où on fabrique des armes pour qu'on sente que les armes sont provenues seulement de la forêt et non de quelque part d'autre. Et quelque part d'autre, c'est où? Je ne sais pas citer l'endroit, parce que je ne suis pas l'enquêteur. Donc il faudrait que les enquêteurs puissent se pencher sur la question pour qu'on retrace la chaîne d'approvisionnement. C'est rebelle, et à partir de la chaîne d'approvisionnement, on peut maintenant trouver des solutions définitives à la crise.
Il y a eu des accords signés entre le gouvernement et le M23. Pourquoi le gouvernement ne respecte pas ce qu'il a promis à ce mouvement?
Il y a une loi qui a été votée au niveau de la République démocratique du Congo. Cette loi interdit de prendre les éléments des groupes armés et de les inscrire dans les forces armées. Je crois que cela est valable et pour les gens du M23 et pour tous les groupes armés. Nous ne devons pas répéter les mêmes choses qui nous ont amené à la crise récurrente que nous connaissons. La République devra s'assumer à partir des expériences malheureuses que nous avons connues pour ne plus répéter les mêmes choses. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il appartiendra à la République de décider si elle doit déroger à la loi pour intégrer des groupes armés dans son armée ou alors rester ferme. Et le point de vue notable de la province du Nord Kivu que j'ai et que je proposerai, c'est de ne plus accepter un seul instant que des gens qui prennent les armes intègrent automatiquement l'armée. Ça sera donner de la valeur aux groupes armés, ça sera pérenniser la crise à l'Est. Parce que tout le monde prendra l'arme, sachant qu'in fine, ça sera une voie d'intégrer les éléments des forces armées. Donc c'est un point de vue personnel qui n'engage pas le gouvernement, mais qui est un conseil que je formule à l'intention d'exécuter, de m'écouter et de me suivre à travers la voie de la radio Okapi qui est suivie à travers le monde, et particulièrement la RDC.
Emmanuel Ngarouillet, vous êtes...